France Culture.
Lucciole, ça veut dire donc la petite lumière, ça veut aussi dire dans le langage populaire la prostituée. Et ça veut enfin dire, vous savez, la dame qui, dans les salles de cinéma, elle a une petite lumière pour vous guider à votre place. La Lucciola.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je voulais terminer l'année 2025 avec de la lumière pour votre book club sans autre argument que d'y tenir, comme on tient à quelqu'un, mais aussi comme on se tient dans la tempête. Je crois que la lumière peut nous tenir bien au-delà de sa prétendue opposition à l'obscurité, peut-être même au contraire, en proposant, contre l'exigence de visibilité permanente, d'autres régimes d'apparition. Manifestement, je ne suis pas la seule. Les éditions de L'Ogre ont créé une collection qui, s'inspirant du poète, romancier et réalisateur Pier Paolo Pasolini, s'appelle Luciole. Le premier opus est signé de l'artiste-chercheur Jérémy Brugidou. Il s'intéresse au phénomène de bioluminescence et oriente notre regard vers des lumières vivantes, situées, relationnelles, venues des profondeurs. Descendant vers les abysses des océans, palier par palier, son livre plaide pour une autre écologie de l'attention. La lumière guette cette bête bizarre qui, malgré l'amour ou l'intérêt qu'on lui porte, n'aurait pas besoin de notre regard humain. Jérémy Brugidou est l'invité de votre dernier club de lecture de 2025. On est ensemble pour une heure. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, faites comme vous voulez. Bienvenue dans le Book Club. Et à vous aussi, Jérémy Brugidou.
Bonjour, merci beaucoup.
Avec plaisir, on est ravis. Merci à vous d'avoir fait le trajet, quel qu'il soit, jusqu'à nous. Votre livre « Bestiaire de lumière », c'est le titre. Il est publié donc aux éditions de L'Ogre et il inaugure cette collection qui s'appelle « Luciole » qui nous a aussi rendu très curieux dans l'équipe du Book Club. On parlera de ce titre. On entendait à l'instant Georges Didier Huberman commenter la version italienne de ce mot-là polysémique et qui va nous aider justement dans sa pluralité des sens à déplier tout ce que vous faites à partir de la lumière et de la bioluminescence. Et on va commencer par ce terme très important. Et on va écouter une océanologue commencer de définir le terme bioluminescence. Elle s'appelle Séverine Martini et on l'avait entendue dans la série documentaire d'Aline Pénito et Anne Despelchin.
On va larguer les pointes arrière en premier.
La bioluminescence, c'est une émission de lumière, mais finalement relativement faible. On ne peut pas la comparer à une lumière qu'on allumerait par exemple chez soi. C'est vraiment une lumière faible. On ne va pas pouvoir lire un bouquin en ayant un animal bioluminescent à côté de nous. Donc finalement, la technologie qui permet d'enregistrer des images de la bioluminescence doit être extrêmement pointue. Et ça fait seulement quelques années, 5-10 ans, qu'on a des caméras, des appareils photo numériques, etc., qui sont suffisamment sensibles en faible lumière, dans le noir complet, pour enregistrer des images d'organismes qui émettent vraiment une lumière très très faible. Et en plus avec des longueurs d'onde, des couleurs qui sont seulement dans un champ de longueur d'onde très restreint, donc autour du turquoise.
Vigie Bas Naval, pilote, pourquoi pas.
La voix de Séverine Martini dans cette ambiance sous-marine. Vous avez hoché la tête quand on a commencé à dire on va pouvoir larguer les pointes arrière. Jérémy Brugidou, ça veut dire que ça vous parle. On va essayer de compléter cette définition de la bioluminescence après la voix de Séverine Martini. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
Alors, d'abord, je voudrais saluer aussi Séverine Martini et Aline Pénito, avec qui j'ai eu la chance de travailler toutes les deux, donc à Marseille notamment. Et donc Séverine, oui, qui travaille au MIO à Marseille, qui est une grande spécialiste de la bioluminescence, et qui là a commencé à nous expliquer qu'en effet, c'est une lumière très faible émise par toutes sortes d'organismes sur Terre, en très grande partie dans l'océan. Il n'y a pas de plantes bioluminescentes à ma connaissance, mais essentiellement des organismes type plancton, méduses, bactéries, céphalopodes, même des requins, et des champignons sur Terre, des insectes, donc les lucioles, les scarabées. En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est quand même un phénomène assez incroyable qu'un animal, à partir de sa matière organique, donc par un processus, donc une réaction chimique par une enzyme qui est propre à l'animal et une protéine qu'il va ingérer par son alimentation, va générer à partir de matière opaque un photon, donc une particule de lumière. Donc c'est à la différence de toutes les autres formes de luminosité, où ça soit la fluorescence ou la phosphorescence ou la chimioluminescence ou d'autres types de luminescence, où en fait il faut une excitation reçue lumineuse.
Un extérieur, quoi.
Un extérieur, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient exciter l'organisme et qui vient réémettre une lumière, alors que là, l'organisme, de son intériorité propre, par son mécanisme propre de sa fonction organique, va produire une lumière qui n'existait pas auparavant.
Contrairement à nous, et on y viendra parce que vous finalement vous modulez cette idée-là, Jérémy Brugidou, mais nous ne produisons pas de lumière propre à partir de ce que nous sommes, à partir de notre matière. Peut-être qu'on produit une autre lumière et peut-être qu'on peut réfléchir à une relation à partir des lumières qu'on produit, mais en tout cas on n'est pas ces petits animaux, ce vivant qui produit de la lumière.
C'est ça. En tout cas, apparemment, récemment, il y a des chercheurs japonais qui ont réussi à montrer qu'il y avait une très faible luminescence, même sur le corps humain, mais
sur
vraiment extrêmement faible. Mais en fait, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'écologie qui soit construite autour de cette luminescence.
Soit, ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'émettre de la lumière pour communiquer avec nos semblables.
C'est ça. Alors que la bioluminescence est au cœur d'un écosystème extrêmement complexe de communication inter- et intraspécifique qui fait tout le sens de la bioluminescence.
Séverine Martini, on l'entendait, elle disait que cette bioluminescence, elle se capte déjà difficilement parce qu'elle est très faible et surtout difficilement parce qu'elle est très loin. Alors comment vous avez eu accès, comment vous avez eu l'idée ou l'envie de vous intéresser à cette forme de lumière-là?
Ouais. Alors c'est vrai que la très grande majorité des organismes qui font de la lumière sont dans l'océan obscur. Et en fait, cette obscurité est nécessaire. Parce que c'est une lumière qui est très faible, sous toute autre forme de lumière, devient complètement invisible. Mmh. Donc si on éclaire avec une lampe blanche un organisme bioluminescent, on perd toute son expressivité. Donc ça se place dans l'océan obscur, mais l'océan obscur, il commence à 200 mètres. Donc c'est profond, mais c'est pas si profond. Et donc entre 200 et 1000 mètres, c'est là où on trouve le plus d'organismes bioluminescents. Et l'océan fait en profondeur 3800 mètres. Donc en fait, il y a énormément...
En moyenne. Parce que ça peut aller beaucoup
plus bas. C'est ça, 3800 mètres de moyenne, 11800 mètres en gros de profondeur maximale.
C'est dévissé totalement ce chiffre, mais bon.
C'est ça. Et donc en fait, la planète, grosso modo, est un énorme océan obscur en très grande majorité. Et là-dedans, il y a énormément de biomasse qui est bioluminescente. Et donc c'est toutes ces espèces-là qui entre elles vont communiquer grâce à cette luminescence et qui vont faire ces écosystèmes que moi j'ai commencé à étudier. D'abord, en fait, moi j'ai fait un peu un détour parce que je suis pas scientifique à la base, je suis pas biologiste marin, je suis cinéaste, je suis chercheur en sciences de l'art et en fait je m'intéressais à la lumière au cinéma. Donc je m'intéressais à la lumière comme matière première de l'image, comme élément qui charrie la sensorialité et l'affect des films, des images. Et comment est-ce que dans le cinéma expérimental ou même dans le cinéma plus mainstream, on peut repérer des moments d'émergence de lumière où tout à coup la lumière n'est plus l'outil qui permet en fait d'éclairer le drame, mais devient le drame lui-même, devient le personnage central de l'image, devient l'événement qui fait que le film est film. Et donc je me suis intéressé à cette dimension, notamment chez Maya Deren ou des cinéastes de cet acabit. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que le cinéma est le seul endroit où la lumière a cette matérialité si sur le devant de la scène, si mise en avant? Et est-ce que l'humain est le seul à être fasciné par ces émergences de sens par la lumière? Et évidemment, j'ai commencé à m'intéresser aux vivants qui faisaient de la lumière et donc à l'océan. J'ai pu rencontrer donc l'équipe de Séverine Martini et Christian Tambourini à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Et là, j'ai vraiment commencé à rencontrer des créatures bioluminescentes et notamment des bactéries.
Alors justement, peut-être on peut en venir à ce moment-là qui est à la croisée de vos pratiques et à cette occasion évoquer de la méthodologie, parce que lire votre livre, c'est aussi faire l'expérience d'une pensée qui se déploie en se nourrissant en permanence de pensées purement théoriques, de références artistiques, cinématographiques, vous venez d'en citer quelques-unes, mais aussi littéraires. On va entendre dans un instant un texte de Pier Paolo Pasolini, et peut-être que prendre l'exemple de ce que vous faites un jour à Marseille à partir de cette bactérie bioluminescente, c'est aussi dire comment vous travaillez, Jérémy Brugidou, et comment ça va vraiment aussi ouvrir une pratique qui va être un peu une installation artistique, un peu une proposition au public, un peu une non-proposition au public et un peu quand même une expérience scientifique.
Oui, c'est vrai que voilà, au départ, j'ai essayé de voir si dans l'histoire du cinéma, on avait impliqué la bioluminescence comme un élément majeur, alors que c'est un élément qui est très cinématographique en soi, parce que c'est vraiment des créatures qui font de la lumière, qui se meuvent. Enfin, Georges Duperman en parle très bien, hein, comment est-ce que ces formes de figuralité que ça peut produire dans une image, ces types de lumière. Et bien sûr, Pier Paolo Pasolini était cinéaste et pas des moindres de la lumière, et il s'est intéressé aux lucioles. Et en fait, à partir de films comme Abyss de James Cameron, où il y a une rencontre entre des humains et des créatures luminescentes, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait créer ce type de rencontre réellement, quoi? Est-ce qu'on pourrait proposer à un public de rencontrer la bioluminescence sous l'eau? Et donc, c'est comme ça, en travaillant au MIO à Marseille, que j'ai commencé à mettre en culture les bactéries qu'eux, ils ont récupérées en grand fond en Méditerranée, donc qui s'appelle Photobacterium phosphoreum ANT 2200. Donc, c'est la famille Photobacterium qui a été récupérée sur un télescope qui s'appelait Antares, à 2200 mètres de profondeur en Méditerranée. On pourra peut-être en reparler, mais c'est un projet un peu spécial entre l'astronomie et la biologie. Et donc, ils ont récupéré cette bactérie. Et moi, avec celle-ci, je la mets en culture, c'est-à-dire que je la fais se développer sur un milieu nutritif riche. Et elle crée un corps collectif qui permet une luminosité que l'humain peut voir à l'œil nu. Et le peut voir très, très bien.
Et pas si bas,
parce qu'en fait, du coup, ça, je les mets en culture dans des sculptures, en fait, que je fais sur mesure pour les besoins des bactéries. Et là, j'ai commencé par faire des sphères, et je me suis dit, tiens, je vais reproduire des sphères lumineuses entièrement bactériennes, que je vais immerger sous l'eau, et je vais proposer au public d'aller nager la nuit à 5 mètres de fond, à 50 mètres du large, enfin à 50 mètres de la plage à Marseille, et de faire l'expérience d'une immersion nocturne dans la bioluminescence. Et c'est un peu commencé comme ça, où il était proposé au public humain, mais aussi au public non humain local. C'est-à-dire que dans cette rade des Catalans, c'est une zone un peu dépeuplée, parce que fragilisée par le passage des bateaux, par toute l'activité économique du port de Marseille. Mais il y a des micro-organismes de toutes sortes. Il y a des larves de poissons, il y a des salpes, il y a des poulpes, enfin, il y a toutes sortes d'organismes qui sont là. Et j'ai pu remarquer, en installant les sphères, que finalement, l'installation avait beaucoup plus plu aux non-humains locaux que les humains qui avaient eu un peu du mal à se mettre à l'eau la nuit, ce qui est compréhensible, hein, mais ça faisait aussi partie de l'expérience de dire, tiens, est-ce qu'on a vraiment l'expérience de tout ce qu'est la mer ?
Et de tout ce qui est la lumière, et quel est notre rapport à la lumière, quel est notre rapport à l'obscurité, parce que partant de ces expériences-là qui touchent, on l'a entendu, à la science, à des expérimentations scientifiques, Jérémy Brugidou, vous montez petit à petit, à la fois votre livre il descend palier par palier comme on plonge, mais vous montez aussi petit à petit en abstraction, en théorie, et c'est ce qu'on va essayer de faire en entendant un premier texte, celui, cette fameuse lettre où Pier Paolo Pasolini parle des lucioles. La nuit dont je te parle, nous avons dîné à Paderno. Et ensuite, dans le noir, sans lune, nous sommes montés vers Pieve d'Alpino. Nous avons vu une quantité énorme de lucioles qui formaient des bosquets de feu dans les bosquets de buissons, et nous les envions parce qu'elles s'aimaient, parce qu'elles se cherchaient dans leurs envols amoureux et leur lumière, alors que nous étions secs et rien que des mâles dans un vagabondage artificiel. J'ai alors pensé combien l'amitié est belle, et les réunions de garçons de 20 ans qui rient de leurs mâles voix innocentes et ne se soucient pas du monde autour d'eux, poursuivant leur vie, remplissant la nuit de leurs cris, leur virilité et potentiel. Tout en eux se transforme en rire, en éclat de rire. Jamais leur fougue virile n'apparaît aussi claire et bouleversante que quand ils paraissent redevenus des enfants innocents, parce que dans leur corps demeure toujours présente leur jeunesse totale, joyeuse. Ainsi étions-nous cette nuit-là. Nous avons ensuite grimpé sur les flancs des collines, entre les ronces qui étaient mortes et leurs morts semblaient vivantes. Nous avons traversé des vergers et des bois de cerisiers chargés de griottes, et nous sommes arrivés sur une haute cime. De là, on voyait très clairement deux projecteurs très loin, très féroces, des yeux mécaniques auxquels il était impossible d'échapper. Et alors nous avons été saisis par la terreur d'être découverts, pendant que des chiens aboyaient et nous nous sentions coupables et nous avons fui sur le dos, la crête de la colline. Un extrait de ce texte que vous citez, Jérémy Brugidou, un texte de Pierre Paolo Pasolini. J'étais en train de chercher dans vos notes qui avait traduit vers le français. Mais je ne le retrouve pas immédiatement. Mais c'est pas grave, je le mettrai sur le site internet. En tout cas, peut-être pour parler de, à la fois des binarités à partir desquelles vous pensez et à partir desquelles vous nous proposez de ne plus penser. Le clair, l'obscurité, la lumière, l'obscurité, mais aussi les abysses, les cieux, la nuit, le jour, et presque en fait le bien, le mal. Pourquoi est-ce que ce texte-là, il nous permet d'enclencher peut-être une façon de se défaire de ces binarités ?
Bon, il y a beaucoup de choses dans ce texte, mais c'est vrai qu'il y a déjà cette confrontation très, très explicite entre deux formes de luminosité dans une même obscurité. Mais, et donc, c'est pas du tout la question de se dire...
Et disons-les... Les lucioles, faible émission et émission vivante,
et les
gros projecteurs.
Voilà. Et les gros projecteurs, c'est le faisceau. C'est vraiment le faisceau que Pasolini redoutait du fascisme renaissant en Italie. Et donc les lucioles étaient vraiment là comme le symbole de la lumière de la résistance. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait non pas contre le projecteur l'obscurité, mais l'intonation d'autres formes de luminosité. Et la proposition d'autres formes d'aube, d'autres formes d'émergence de lumière que Pasolini décrit par l'amitié. Et en fait, ces jeunes hommes qui sont dans les collines, ils sont dans un état cinématographié. Enfin, ils sont vraiment dans un état de transe lumineuse, un peu d'état d'hypersensorialité. Et c'est cet état d'hyperattention et d'hypersensibilité, d'hyperphotosensibilité dans laquelle il faut se mettre pour en fait prendre conscience de la diversité des formes d'expression lumineuse qu'il peut y avoir dans le monde et qui sont en fait homogénéisées sous la forte lumière blanche qui est celle sous laquelle, en tout cas, les occidentaux urbains ont l'habitude d'exister.
Homogénéisées ou même perdu, c'est-à-dire que la domination de la lumière dans le monde occidental urbain fait qu'il y a beaucoup de lumière qui n'existe pas ou qu'on ne voit pas exister.
C'est ça, qu'on ne voit pas exister et dont on oublie presque l'existence. Et alors qu'en fait, même dans les forêts obscures, si tant est qu'elles sont encore obscures, on peut trouver des vers de terre luminescents. Ça existe, des champignons, mais c'est vraiment des formes qu'on ne voit plus. Et finalement, nos yeux, nos rétines ne sont plus habitués à voir dans l'obscurité et à percevoir ce type de lumière. Et même, on n'y pense même pas. C'est même pas quelque chose où on se dit, tiens, ça serait intéressant d'être attentif à ça, d'avoir un niveau d'attention suffisant pour voir ça. En fait, on n'y pense plus parce que ça fait plus partie de nos régimes d'attention, de nos régimes d'imagination, de nos régimes d'image. Et moi, ce que j'avais envie d'explorer, c'était comment, à travers cette notion de bestiaire et donc d'exploration de formes de créatures qui proposent des intonations lumineuses comme celles qu'appelait Pasolini de ses vœux à travers ses films, à travers ses écrits et sa poésie, comment est-ce qu'on peut inspirer aussi, nous, notre propre cinématographie intérieure, notre propre photosensibilité, pour se dire, ok, la lumière blanche, c'est très utile, c'est très fonctionnel, on en a besoin pour plein de choses et ça fait partie de notre existence. Mais en fait, la lumière ne nous concerne pas que nous. Mmh. Et l'histoire de la lumière électrique technologique, elle s'inscrit dans une longue histoire de la lumière avec le vivant. Et nous, on n'en est qu'un moment. Et c'est un peu cette réinscription que je voulais travailler sur comment élargir la temporalité et élargir la perspective de l'humain dans ses rapports à ce qui nous semble être le plus proprement humain, à savoir la technologie lumineuse et la lumière comme forme de conscience exclusive à l'humain. Et donc, je voulais renverser ça. Je voulais dire, en fait, on n'a peut-être jamais vu la lumière, on n'a peut-être jamais vraiment... C'est peut-être l'élément le plus invisible qui soit, en quelque sorte, si on veut faire un paradoxe, que la lumière. Et donc, comment, à partir de quelques exemples assez simples et assez précis de créatures bioluminescentes et d'interactions entre elles et d'autres créatures ou entre des humains et elles, comment voilà, donner des sortes d'analogies, des sortes d'images mentales, des sortes de pistes d'imagination pour proposer voilà, des narrations lumineuses qu'on peut se raconter nous-mêmes, qu'on peut se raconter entre nous et qui peut nous permettre du coup d'essayer de voir le monde sous toutes sortes de formes de microsensibilité.
Alors justement, peut-être avant qu'on s'approche d'un des exemples, qu'on en prenne un, Jérémy Brugidou, à quoi on doit renoncer ou qu'est-ce qu'on doit défaire dans notre tête qui sont des antagonismes si puissants, qui sont presque impossibles à défaire? Qu'est-ce qu'on doit défaire pour rentrer dans un nouveau mode de rapport à la lumière?
Mais déjà que bon, la lumière, elle ne peut exister au final que sur un fond d'obscurité. Mmh. Et en fait, la lumière, elle est tout sauf une abstraction. Et alors que on peut avoir l'impression qu'on baigne dans une forme d'abstraction lumineuse qui nous entoure et qui fait que l'espace et le temps existent pour nous. C'est-à-dire que la lumière éclaire nos existences et on peut se mouvoir, en tout cas pour ce régime un peu oculocentré dans lequel on règne, c'est-à-dire que tout est centré autour de la vision. En fait, la lumière permet facilite nos existences, mais elle n'existe jamais en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne cohabite pas avec la lumière en tant que telle.
On s'en sert comme quelque chose d'utile.
On baigne dedans, comme le poisson baigne dans l'eau. Mais au fond, le poisson, il faut se mettre dans la peau du poisson qui ne fait pas que baigner dans l'eau. Il sent aussi l'eau qui le traverse. Il sent toutes les impacts que ça a sur son corps. Il sent comment ça le nourrit, comment ça le traverse et le modifie. Et donc, moi, le renversement, c'est de dire que la lumière a une action sur nos corps, a une action métabolique, et qu'en fait, la lumière est aussi une forme de, pas que de vision, mais de, elle a une dimension tactile, elle a une dimension vibratoire, elle a une dimension mouvante, elle a une dimension... c'est comme ça qu'elle est utilisée dans les océans. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a toute une forme de fluctuation d'intensité, de fluctuation de ses modes de présence. Ça peut être un flash, ça peut être un nuage, ça peut être
comme
une traînée.
Comme un langage, comme une communication.
Voilà, comme des formes une sorte de graphie, littéralement une photographie, une sorte de... Alors évidemment, c'est pas un langage symbolique, mais il y a en tout cas des signes qui sont émis.
Ou des signaux. Moi, j'ai été voir par curiosité, parce que vous renvoyez à plusieurs, ou bien des œuvres, ou bien des documentaires, et par exemple, un film documentaire diffusé par la BBC qui s'appelle Deep Blue, et donc à un moment donné, ils vont dans les très grandes profondeurs, nous donner à voir des images qui sont sinon inaccessibles, et c'est délirant, enfin on a vraiment l'impression qu'on est dans un film de Bilieula, enfin c'est des espèces de formes un peu, je sais pas comment dire, des algues luminescentes,
oui, c'est ça,
ouais. des pieuvres, des méduses, et on a vraiment l'impression d'une œuvre.
C'est ça, il y a des scintillements de toutes sortes. Il faut vraiment se rendre compte que dans l'océan, entre les 200 et 1000 mètres, on n'y a pas une seconde sans qu'il y ait une émission de lumière liée à un contact, liée à une interaction, liée à... Et moi, ce que j'ai montré, justement, c'est que la lumière, loin d'être une abstraction, en fait, qui est un peu neutre et en dehors de notre existence, elle est un phénomène relationnel. Et que la lumière... comprise en tant que forme de bioluminescence.
En tout cas, pour eux, c'est sûr. Entre 200 et 1000 mètres, c'est sûr que c'est un phénomène relationnel.
C'est ça.
Et ce que vous proposez, c'est regardons de très près ce qui se passe, ayons une attention la plus fine possible dans l'usage relationnel qui est fait de la lumière entre 200 et 1000, voire plus bas, et voyons voir comment ça peut ou bien déjà parler de nous, humains, ou bien nous inspirer pour fabriquer des modes de relation, des modes d'attention, des modes d'être vivant.
Oui, c'est ça. Et puis simplement de se dire... En fait, on est fasciné par la lumière qu'émet une bactérie.
Ça, c'est sûr.
Qui est à 2500 mètres de fond dans les océans.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Comment ? D'où vient cette fascination ? D'où vient cet émerveillement ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on est sensible à ça ? C'est étonnant, en fait. Et c'est constant. Dès qu'on expose ce type de lumière à des gens, tout le monde est fasciné et c'est presque hypnotisant.
Mais en fait, de toute façon, quand même, je veux dire, le soleil qui se lève n'importe où... On le regarde, on l'admire. Vous disiez, on manque d'attention, on a l'impression que la lumière est toujours là, mais en réalité, c'est vrai et pas vrai. N'importe quelle personne peut raconter qu'à un moment dans sa vie, voire à tous les instants de sa vie, ouais, il ou elle est attentif à la lumière. C'est On ça. Est très attentif
bien
à la
sûr,
lumière.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs de là que moi, ça vient, cet intérêt-là. C'est des souvenirs d'enfance, ouais, qui sont en fait marqués par une luminosité très particulière. Et c'est souvent cette luminosité-là. Et c'est souvent une luminosité qui est en train de changer. Mm. Si c'est couché, lever de soleil, c'est des moments où la lumière, elle est en train de se métamorphoser en autre chose. Et c'est ces moments où la lumière se meut, où la lumière bouge et elle nous meut, elle nous émeut, elle nous touche. Ces moments où la lumière nous touche, qui justement, je trouve, est très concrètement incarnée dans les créatures bioluminescentes. Mmh. Parce que concrètement, elles se touchent entre elles par la lumière et elles nous touchent à travers des milliers de... Enfin, à travers des kilomètres de distance et cette surface qui est infranchissable entre la mer et l'air et qui pour nous est invivable. Mais en fait, dans ces zones-là, il existe des phénomènes qui... encore dans nos cerveaux, nous touche, nous impacte, nous attire. Et à la différence des phénomènes de, on va dire, paysagers de lumière, mmh, où en fait on va pouvoir avoir une espèce de contemplation devant un paysage qui va être imprégné d'une luminosité qui nous aura marqué. En fait, la bioluminescence, il n'y a aucune possibilité de paysage. C'est l'inverse de la possibilité d'un paysage.
Mais par le caractère instantané ?
Par le caractère éphémère, instantané, et du fait qu'il n'y a aucun fond, en fait. C'est que de l'obscurité, ponctuée par des lumières très éphémères et émouvantes. Et donc, il y a des traces, il y a peut-être des... On pourrait appeler ça des visages du monde qui apparaissent, mais à aucun moment, il n'y a de paysage. Et donc, c'est vraiment pour renverser cette un peu ce lien qu'on peut faire des fois dans nos esprits entre l'image et le paysage. Mmh. C'est-à-dire, quand on voit une image de lumière, on voit un paysage éclairé par une luminosité.
Et donc, on est extérieur.
Et donc, on est extérieur. Et donc, il y a tout de suite cette interaction entre le sujet, mmh, l'objet et cette...
Waouh, ils jouent avec nous, ils ont éteint toutes les lumières, les chilous.
Et là, il y a toutes les lumières qui se sont éteintes. Et donc, voilà, dans l'océan obscur, c'est une toute autre possibilité d'image. Mmh. Et donc là, il y a tout à créer, en fait, à partir de ça. J'ai pas de proposition toute faite, mais ça fait partie de mon travail et d'artiste et de chercheur et d'écrivain d'essayer de réfléchir à comment on décrit ce type d'univers.
En tout cas, ce que j'entends et qui est aussi une proposition de langage et une proposition poétique, Jérémy Brugidou, c'est qu'en regardant ce qui est existant dans le vivant dont nous faisons partie mais dont nous sommes éloignés pour des raisons de mode de vie, quoi, ça nous permet de nous approcher avec, on va dire, des outils plus scientifiques, essayer de répondre à cette question, en effet. Pourquoi on regarde la raie de lumière et la poussière qui danse dedans dans un hangar de foin à 5h de l'après-midi? Pourquoi est-ce qu'on peut être ébahi de longues minutes devant ça? C'est vrai, ouais. Je veux dire, on a autre chose à faire.
Oui, non, c'est ça. Et c'est vraiment, moi, c'est vraiment, ça part d'images comme ça, mmh, au départ, ma passion pour cette question lumineuse, qui est une obsession, en fait, une obsession de pourquoi est-ce qu'un même endroit, selon... peut-être un éclairage ou un événement de lumière peut devenir tout à coup un souvenir marquant. En effet, les poussières qui dansent dans un rayon de lumière, c'est des moments où, tout à coup, pour moi, l'hypothèse, c'est que tout à coup, la lumière devient quelque chose avec laquelle on peut avoir un lien. On peut avoir un rapport, on peut pas la nommer, mais on peut...
Elle est plus matérielle que d'habitude.
Elle a une forme de matérialité qui, pour moi, a été une des quêtes du cinéma, c'est comment... faire de cette matérialité le sujet d'une histoire. Comment faire de cette matérialité le support d'une histoire et d'une émotion et d'affects divers et variés.
Ce que fait de manière délirante Alice Rohrwacher dans son film Les Merveilles. C'est-à-dire, je me souviens de ce sont des sœurs qui grandissent dans une ferme et qui sont en permanence en train de regarder justement des raies de lumière dans la campagne qui sont... C'est presque un quatrième personnage. Enfin, c'est un enfant parmi cette bande d'enfants. Et en effet, peut-être vous avez raison, dans ces moments-là, ça devient... plus matériel, donc on peut plus facilement se figurer notre fascination, notre amour, notre désir, notre lien avec cette lumière.
Oui, et en fait, moi, ce lien-là, comment est-ce que j'essaye de le penser, de le tisser, c'est de me dire, de même qu'il y a cet élément un peu fascinant que je vais faire un peu une espèce de bond. De même qu'il y a ce truc un peu fascinant avec le Big Bang qui fait que, en fait, dans le cosmos, il y a la même matière partout. Mm. C'est-à-dire qu'on peut aller à 13,4 milliards d'années-lumière, il y aura les mêmes matériaux de base, on sera composé de la même façon. C'est finalement assez dingue. Parce qu'on pourrait se dire que, au-delà de ce qu'on est capable de voir, ça pourrait être une autre forme de matière, mais c'est la même matière. Mm. De même, en fait, le vivant, à un moment donné, a eu son Big Bang aussi. Il y a eu un ancêtre commun. Et en fait, il y a quelque part la même matérialité qui nous constitue. Et moi, mon hypothèse que je poursuis, qui est un peu une hypothèse semi-scientifique, semi-fictive, une espèce de provocation pour l'imagination, c'est de dire, mais en fait, il y a peut-être la même matière, on va dire, la même intériorité partout, ce que Descola pourrait appeler la continuité des intériorités, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme de Big Bang de l'intériorité depuis le début, et qu'en fait on est rattaché, quelque chose nous accroche à la bactérie bioluminescente qui, il y a 2,5 milliards d'années, a émis la lumière pour la première fois, par réaction peut-être antioxydante. Peut-être est-ce une forme d'auto-guérison de la cellule, peut-être est-ce une forme de secondaire, la lumière, mais la lumière apparaît par une bactérie, dans les grands fonds marins, il y a 2-3 milliards d'années. Et depuis, elle a explosé dans le vivant. Et nous, humains, on est encore fascinés par des événements de lumière.
Ah, ça me rend... péter un câble, cette idée-là.
Est-ce qu'on est quelque part encore dans cet héritage de l'imagination, sans aller jusqu'à dire qu'il y a une imagination de la bactérie ou une conscience, mais c'est juste que de dire... Moi, j'essaie de tisser cette continuité-là. Et parfois, ça va vers la fiction, mais ça donne à réfléchir et ça permet de penser et ça permet de créer des liens avec des créatures moins lointaines. Mais néanmoins, cette obsession, cette fascination, elle existe, elle est réelle, elle est partagée par énormément de monde.
Et pourquoi c'est émouvant de penser ça? Parce que je pense que ce n'est pas qu'une hypothèse scientifique qu'on pourrait discuter dans Science.
Ouais.
Pourquoi est-ce que ça crée de l'émotion? Moi, quand je vous entends dire ça, ça m'émeut beaucoup.
Oui, oui, je trouve ça très émouvant aussi. C'est parce que on va trouver un lien avec ce qui nous semblait le plus lointain. Mm. Et c'est aussi de pouvoir se dire, en fait, il peut exister la plus grande altérité, une altérité absolument irréconciliable, et pourtant, quelque chose peut se passer entre nous. On peut créer un lien, on peut avoir un échange aussi déséquilibré et avec autant de malentendus peut-il y avoir, il peut exister cet échange. Et c'est à travers la bioluminescence que je trouve ça intéressant parce que c'est plein de malentendus la bioluminescence, même entre les créatures sous-marines. En fait, il y en a plein qui se méprennent sur le sens qui est émis. C'est justement, ça sert de leurre, ça sert de piège, ça sert de repoussoir, d'attraction. Et en fait, c'est tout un ensemble de communication qui veut dire le vrai, qui veut dire le faux. Et là-dedans, en fait, à la fois on se perd, mais en même temps il y a une coévolution qui s'est construite sur plusieurs milliards d'années. Et moi je propose que nous inscrivons dans cette continuité là des écosystèmes lumineux des grands fonds marins.
Des yeux de bleu ciel sous la capuche, moi, je rêvais de beauté. Je voyais la mer enfantée de vagues. À l'horizon, la lune pleine pleurait des larmes de lumière. À l'horizon, la lune pleine pleurait des larmes de lumière. Les yeux fermés, je parlais aux oiseaux. Et leurs cris me donnaient des ailes. Et leurs cris me donnaient des ailes. Soudain sont venus les monstres, mais j'ai résisté. Enfant des lucioles, que la vautour ne peut vendre. Enfant des lucioles, que la nuit noire ne peut engloutir. Enfant des lucioles, que la vautour. Enfant des lucioles, que la nuit noire ne peut engloutir. Enfant des lucioles. Enfant des lucioles. même si l'on m'enterre, je reviendrai comme une fleur. Rosée de lumière, n'en déplaise à la poussière. Nuée de ténèbres, au fond de ma mémoire, je polis ma peine au tranchant de la belle étoile. Ils veulent mon malheur, ils veulent me voir blessé. Dans le centre-naël, j'ai vu certains fêter. Le poing levé, le cœur ouvert, peuple des lucioles, on doit les éclairer. Peuple des lucioles, que la vautour ne peut ventrer. Peuple des lucioles, que la nuit noire ne peut engloutir. Peuple des lucioles, que la vautour ne peut ventrer. Peuple des lucioles, que la nuit noire ne peut engloutir. Peuple des lucioles, que la vautour ne peut ventrer. Peuple des lucioles, que la nuit noire ne peut engloutir. Peuple des lucioles.
Il se ressentait lui-même comme faisant partie de cette population qui émet ces signaux dans la nuit. Évidemment, ce sont des signaux d'appel, ce sont des signaux d'amitié ou d'amour, de désir. C'est ce qu'il appelle le peuple. Et il voit dans le peuple et dans sa propre contre-culture des signaux essentiels, qui sont des signaux, disons, de résistance à l'ordre établi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et un Book Club aujourd'hui pour une plongée dans les aventures lumineuses du vivant. Comment se représenter une rencontre lumineuse dans l'océan obscur ? Que peuvent nous apprendre les échanges luminescents dans ces profondeurs abyssales ? Peut-on se débarrasser de certaines binarités enfermantes, lumière, obscurité, vie, mort, abysse, cieux ? Et dès lors, est-ce qu'un autre entremêlement aux espèces non humaines est possible pour nous et par la lumière ? Autant d'aventures de pensée que propose votre livre, Jérémy Brugidoux, Bestiaire de lumière, paru aux éditions de L'Ogre. On entendait de nouveau la voix de Georges Didier Berman parler de ce peuple des Lucioles, peuple qu'appelle peuple Pierre Paolo Pasolini, que pense peuple Pierre Paolo Pasolini, et leur manière, leurs intonations de façon, oui, leurs intonations luminescentes, comme des propositions de résistance à l'ordre établi. Assez rapidement, dans votre livre, vous allez vers une autre politique de la lumière, correspondant à une autre politique de l'attention. Comment est-ce qu'on fait, on va dire, le trajet de l'observation de bactéries luminescentes dans les bas-fonds océaniques à une résistance politique, à, vous dites, je me mets dans le sillon de Pasolini, vous réfléchissez aussi avec Walter Benjamin. Comment vous allez de là à là ?
Mais il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs, on va dire, maîtres ou sillons dans lesquels je poursuis.
On n'a pas cité Donna Haraway, mais vous allez aussi avec elle.
Oui, beaucoup Donna Haraway, énormément. Dans cette question, Donna Haraway, d'apprendre à bien vivre et bien mourir ensemble. Il y a quelque chose vraiment de puissant, je trouve, dans cette idée de coexister avec l'extinction, de coexister avec ce qui est en train de se produire actuellement, et en même temps, là-dedans, de repérer ce qui malgré tout émerge, ce qui apparaît, ce qui poursuit la magie de l'expressivité diversifiée du vivant, et d'arriver à trouver ça malgré les forces, on peut dire, des forces lumineuses écrasantes qui ont tendance à faire disparaître, c'est ce que décrit Walter Benjamin, tout l'ensemble du spectre disparaît sous la lumière blanche. Oui. Et la bioluminescence, c'est des longueurs d'onde très spécifiques. C'est, comme disait Séverine Martini au début de l'émission, c'est en effet un turquoise, donc c'est environ 480-490 nanomètres, c'est une espèce de bleu-vert, et il y a plusieurs longueurs d'onde entre le jaune et le vert, très rarement le rouge, mais en fait, c'est juste une image pour dire que sous la lumière blanche, il y a quantité de d'histoires, de petites histoires qui se racontent. Sous notre éclairage ambiant et omniprésent, il y a quantité de petites vies minuscules qui existent, qui persistent. Et en fait, c'est ce qu'avait décrit Didier Huberman en reprenant le texte de Pasolini et en reprenant Deleuze et Guattari. C'est, en fait, il y a des formes de lumière qui sont mineures, qui sont des forces, des propositions de résistance, des propositions subversives qui, par leur existence même, sont une espèce d'alternative ou de révolte contre ce qui existe, simplement parce qu'elles existent et qu'elles disent, en fait, il y a possibilité d'être autrement lumineux, d'être autrement sensible, d'être autrement expressif. Et c'est ce trait-là que je trace. Et par exemple, quand je fais une installation lumineuse avec de la bioluminescence, le public va rentrer dans une pièce. Au début, le public ne va rien voir. Donc il va rentrer dans une pièce, il va dire « Ah bon, ben, c'est noir, il n'y a rien, je m'en vais ». Et en fait, il faut arriver à créer les conditions pour que le public reste. Et petit à petit, ça apparaît. Et petit à petit, au bout de quelques minutes, voilà, les pupilles vont s'agrandir. On va commencer à voir dans l'obscurité. Et on va voir qu'il y a une lumière. Et au bout de 5-10 minutes, on va très bien voir dans la pièce.
Mais ça veut dire aussi, Jérémy Brugidou, que quittant ce champ, on va dire, plus métaphorique, ça peut avoir des traductions très concrètes politiquement dans la manière dont on vit ensemble. On vit ensemble entre humains ou entre espèces non humaines. C'est-à-dire que peut-être moduler nos modes d'attention, moduler nos modes d'apparition les uns au regard des autres, mais aussi dans les environnements que nous traversons. En réalité, ce que vous proposez comme micro-expérience dans ces moments-là, ça peut se décaler et on peut en trouver plein de traductions politiques.
Bien sûr. Et en fait, il y a énormément de chercheurs et de chercheuses aujourd'hui qui travaillent là-dessus, de philosophes, d'anthropologues, et en France, côté américain. Enfin, il y a énormément de gens qui questionnent ça et qui tentent de proposer des lignes de vie comme ça qu'on pourrait suivre pour se dire, tiens, où est la sensibilité, où est le gain d'attention qu'on peut trouver. Et là, par exemple, dans ces œuvres-là, c'est juste le temps donné à l'observation, le temps donné à l'attention, de se dire, ah, déjà, d'une part, de voir qu'il y a quelque chose et pas rien. Deuxièmement, de se dire, ce quelque chose n'est pas déjà connu, parce qu'on peut aussi voir la chose et dire, ah oui, c'est juste un globe éclairé. Donc de dire, ah non, c'est pas ça non plus, c'est différent. Et donc, il y a différentes étapes de se dire, il y a quelque chose, c'est pas du connu et je sais pas ce que c'est, et pourtant ça me fascine. Et petit à petit de se dire, ah ok, c'est des bactéries, ah d'accord, ça vient des grands fonds marins, ah ok. Et là, en effet, donc il y a d'une part quelque chose qui peut se transposer dans d'autres contexte rien à voir, sur le chant des oiseaux, sur toutes sortes d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la lumière, ou en tout cas pas directement. Mais aussi, pour moi, ça participe à rendre compte de l'extrême vitalité et vivacité des grands fonds marins, qui sont encore aujourd'hui souvent perçus comme des environnements dénués de vie, ou en tout cas avec très peu de vie, très peu d'intérêt pour les sociétés humaines, et très loin de nous. Et moi, en fait, ce que je veux montrer par ces écosystèmes-là et par toutes ces petites histoires que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, il y a énormément de vie, et une vie qui nous concerne très, très directement et très profondément, malgré la distance, malgré le fait qu'on ne pourra jamais y être. Et là où j'essaie de construire quelque chose de politique, c'est qu'avec ces questions de lumière, j'essaie de penser ce que peut être un commun. Donc, en reprenant la notion de commun d'Elinor Ahlström, de se dire comment est-ce qu'on peut construire encore aujourd'hui du commun, mais qu'est-ce qu'un commun où on ne peut jamais aller ? Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à penser. On a des patrimoines communs de l'humanité qui sont la Lune, que sont l'Antarctique, que sont les sols et sous-sols océaniques. Mais qu'est-ce qu'un commun ? C'est-à-dire un endroit qu'on peut chérir ensemble et dont on peut prendre soin ensemble, mais où on ne pourra jamais aller.
De la même manière, qu'est-ce que la lumière qui n'aurait pas besoin de notre regard ?
C'est ça.
Qui n'aurait pas besoin de notre regard pour exister, pour être valable et dont on pourrait prendre soin en dehors du plaisir qu'elle pourrait offrir à notre regard.
C'est ça.
On va écouter Tom et revenir au cinéma. Tom, auditeur du Book Club, a lu votre livre. Jérémy Brugidou, il vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Jérémy Brugidou, merci pour votre livre. Ça a été une lecture assez fascinante, je dois l'avouer, assez surprenante, notamment pour tous les liens que vous tissez entre tous ces éléments qui peuvent sembler un peu parfois abracadabrantesques, donc le lien entre la vie bioluminescente et le cinéma, notamment le cinéma de science-fiction, et puis du coup des pensées, je pense par exemple à Donna Haraway, dont je suis très fan et dont j'étais content de retrouver des extraits de Vivre avec le trouble. Après, je dois avouer que en tant que cinéphile, j'ai été très intrigué par tous les noms que vous donnez, notamment David Lynch au début, et la manière dont vous trouvez que ces films se rapprochent de phénomènes bioluminescents. Et ça, je crois que j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Alors j'imagine que c'est dans votre thèse, mais si vous pouvez me l'expliquer maintenant, ce serait encore plus agréable. Merci.
Merci à vous, Tom.
C'est comme je disais, c'est parti de là, mon intérêt pour la bioluminescence. Et j'ai repéré chez un certain nombre de cinéastes, comme David Lynch, comme Naomi Kawase, comme Maya Deren, Pasolini et Stephen Voskin, et plein d'autres, des moments où, comme je disais en début d'émission, où la lumière prend valeur d'ouverture à l'autre et prend valeur d'une brèche dans l'image. Et c'est Maya Deren qui parlait de ça dans ses textes. Elle était aussi théoricienne et philosophe et magicienne vaudou. Et elle disait, en fait, je suis en quête dans l'image d'une brèche qui permettra d'ouvrir vers une autre image. Et c'est dans le cinéma, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand une image, elle va ouvrir sur d'autres images, elle va ouvrir sur une écologie d'images, et en ça, elle se rapproche de la bioluminescence, qui est, comme je disais, un phénomène avant tout relationnel, qui ne s'explique que par des formes de coévolution. Il ne peut pas y avoir une créature bioluminescente indépendamment toute seule. En fait, elles ont évolué, coévolué ensemble, et il y a des récepteurs, des émetteurs, des yeux et des peaux qui sont capables de percevoir la lumière, des photophores qui sont capables de les émettre. Et là-dedans, en fait, moi, le cinéma qui m'a intéressé, c'est des images qui sont capables d'entrer en vibration avec d'autres images, avec d'autres lumières, avec même des images qui sont en dehors des films, ou des lumières qui sont en dehors des films. Et des films comme David Lynch accueillent des formes d'altérité dans leurs images, ou Maya Deren, des formes d'altérité qu'on est incapable de nommer, de désigner. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais on sait qu'il y a là-dedans quelque chose qui vient frotter l'image.
Et justement, puisque vous parlez d'altérité, et ce n'est pas la première fois que vous le faites, il me semble que votre livre s'ouvre et se termine par un appel à ça, à un grand autre, à une grande altérité ou alternative peut-être. On va terminer avec un dernier extrait de votre texte. Une autre lumière pour un éclairage autre. Qu'est-ce que ça fait d'être éclairé par la lumière d'une autre ? Par une lumière qui maintient son altérité tout en nous atteignant et en établissant une communication. Correspondre sans nécessairement se comprendre, mais marquer l'un, l'une, l'autre de notre mode de présence singulière à chacun, chacune. Notre présence dans l'univers d'autres êtres vivants, nos tentatives d'actualiser leurs invisibilités en visibilité pour nous, ne sont pas neutres. Elles impliquent des relations de pouvoir, des rapports de force et des transformations qui s'étendent bien au-delà de notre capacité à les prévoir, les contrôler, les gérer. Allumer une lumière dans les abysses, c'est prendre un risque vital. Éclairer, c'est faire prendre un risque vital. L'illumination est une responsabilité des vivants, les uns les unes envers les autres. La mise en visibilité n'est jamais un acte objectif, elle est le geste même d'une subjectivité qui entre en relation avec une autre, souvent pour la réduire en objet de savoir. Je voulais qu'on commente ce bref mais dense extrait de votre texte, Jérémy Brugidou, et toutes, on va dire, les implications, les conséquences, mais aussi les responsabilités que peut entraîner cette pensée. Donc déjà, on a essayé de le dire, on va dire toutes les impulsions d'imaginaire que ça peut, j'espère, générer chez nous pour d'autres modes de relations, entre les semblables humains, mais aussi pour le rapport au savoir, à la science ou à ce que vous entreprenez là, qui est voilà, une aventure de pensée, quoi. Alors, comment on fait pour se lancer dans des aventures de savoir, scientifique ou autre, sans que la mise en visibilité, que la lumière qu'on veut porter sur un objet ne soit une prise de pouvoir, ne soit une domination, ne soit un éclairage si fort qu'on en viendrait à éliminer ce qui était bien tranquille sans nous dans l'obscurité. Enfin, voilà, je voulais vous poser cette galère.
Difficile question. Et c'est vraiment le ce qui est en filigrane dans cet ouvrage, c'est aussi une interrogation sur mon rapport à la science, mon rapport aux scientifiques, mon rapport à la question de la connaissance, parce qu'on dit souvent que pour mieux protéger, il faut mieux connaître. Et parfois, ça m'interroge, cette notion, parce que c'est vrai, la connaissance est extrêmement importante pour commencer à déjà prendre conscience que quelque chose existe et du coup d'en prendre soin. Par ailleurs, la connaissance, elle s'inscrit toujours dans des contextes sociaux, économiques et politiques où il y a des agendas de la connaissance aussi. Il y a des voilà. Et parfois, les choses qui sont mises en lumière mises en lumière pour des formes voilà qu'on connaît, d'exploitation, d'extraction, etc. Comment on fait? Moi, dans ma pratique, je travaille avec des bactéries, par exemple.
C'est ça, c'est-à-dire que concrètement, ce qui se passe de bioluminescent comme échange entre 200 et 1000 mètres n'a vraiment pas besoin de nous, n'a pas besoin qu'on aille les regarder. Ils se débrouillent très bien sans nous.
Clairement. Et actuellement, l'humain est en train d'y aller. On vise à exploiter les grands fonds marins pour les ressources minières et génétiques, surtout minières actuellement, au-delà déjà des ressources halieutiques qu'on a bien exploitées. Et en fait, les conséquences sont désastreuses potentiellement de ce qu'on peut soulever comme sédiments et de ce qu'on peut de ce qu'on peut détruire qui a mis des millions d'années à évoluer.
Juste en presque voulant aller y voir, quoi.
Oui, alors déjà voulant aller y voir, c'est perturbant parce que faut comprendre que c'est quand même des milieux qui ont jamais connu la lumière pendant des milliards d'années, et d'un seul coup, un robot arrive avec 200 000 lumens qui éclairent plein phare un milieu. Donc c'est sûr que c'est impactant. Après, la science a toujours été impactante, mais elle a aussi, en fait, cet impact-là, elle prend ses responsabilités et ça sert notamment, en général, un bien commun, enfin voilà. Pas toujours. Donc c'est là aussi où moi je dis qu'il y a des rapports de force qu'il faut toujours prendre en considération, qu'un savoir n'est jamais neutre, que la connaissance n'est jamais neutre, que voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire pour explorer ou en tout cas connaître et être en lien sans détruire? C'est vraiment l'enjeu, et peut-être c'est à travers l'écriture, à travers l'imagination, à travers justement le fait de pouvoir commencer à se figurer les grands fonds marins comme des zones d'intense interaction vivante et en fait des lieux d'apprentissage pour nous de ce qu'est une interaction vivante, et de se dire ah ok, en fait ça peut s'inscrire autrement que comme on le pensait sur des bases de sujets, d'objets, d'interactions avec un éclairage extérieur qui vient éclairer une scène, et où en fait les choses se dérouleraient sur une scène. Là il n'y a pas de scène, il n'y a que des figures mouvantes. Et comment est-ce que à partir de cet imaginaire-là, on peut commencer à construire en soi une sorte de philosophie de l'existence qui se fonderait sur qu'est-ce que je permets autour de moi d'émerger, et comment je suis un lieu d'accueil pour ces émergences-là, et comment elles peuvent venir m'impacter comme lieu d'émergence. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les bactéries, c'est-à-dire comment est-ce que je peux à la fois travailler avec elles, mais me laisser impacter en retour, me laisser moi transformer en retour par leur luminosité, par leurs besoins, par leurs exigences, et par en fait toute l'obsession qu'elles procurent et qu'elles traduisent dans mon travail, dans mon existence. Et comment est-ce que ça impacte ma manière de penser l'océan profond, d'en parler, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire un commun planétaire à partir de ça? Comment est-ce qu'une bactérie lumineuse peut nous aider à construire un commun planétaire pour que tous les organismes qui dépendent d'elle puissent continuer à coexister ensemble, quoi.
Mais quand je vous écoute, et c'est là où, à mon avis, c'est intéressant, c'est que ça produit aussi des modèles imaginaires, des images, des propositions, on peut très bien, au lieu de parler des bactéries, parler des enfants, parler des gens que nous aimons, parler, je sais pas, des animaux que nous côtoyons. C'est-à-dire que c'est transposable, Jérémy Brugidou. Moi, je pense qu'on peut reprendre tout ce que vous venez de dire là et se débrouiller pour en faire un nouveau mode relationnel avec les enfants qui vivent autour de nous, par exemple. Et il me semble que c'est aussi des propositions de... Oui, d'essayer d'autres choses, quoi. D'essayer d'autres choses de mise en relation.
C'est ça. Et c'est ce que je fais un peu dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs créatures qui scandent les chapitres. Et chaque bête, chaque créature qui peut être biologique, qui peut être fictive, qui peut être mythologique, elle est l'occasion de penser ça. De penser cette différente manière de décliner ce modèle relationnel à partir de ma rencontre avec la bactérie. Et comment on peut décliner ça sur différentes formes d'interactions, de rencontres qui sont peut-être plus proches de nous dans nos existences quotidiennes. Et comment est-ce que ça peut être, voilà, comment l'océan profond peut être une grande leçon de nos existences terrestres et aériennes.
Et ça se passe dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des expériences scientifiques, on a parlé des installations, mais dans l'écriture, il y a aussi quelque chose de, je sais pas, du langage, des mots, de l'imaginaire qui vous aide à avancer là-dedans.
Oui, il y a l'exigence de la description de la lumière. C'est vrai qu'on est assez limité en mots. En fait, c'est difficile de trouver les mots pour raconter, décrire ce qu'est une manifestation bioluminescente, parce qu'en fait, c'est ni lumière ni pas lumière, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est une espèce d'entre-deux, à la fois visqueux, tactile, visible. Et donc, comment est-ce qu'on décrit ça? Comment est-ce qu'on décrit cette fascination, autre que c'est fascinant? Comment on décrit cet émerveillement? Et ça passe par toujours une hybridation un peu entre des éléments très factuels, très scientifiques, et une démarche un peu fictionnelle, une démarche un peu de réflexion imaginaire. Et c'est un peu la marque aussi de L'Ogre. C'est pour ça que j'ai aussi publié publié un roman, que je vais publier un nouveau roman chez eux sur ces questions-là. Et que, en fait, la penser l'humain, on peut le penser à partir de ces éléments très factuels et des éléments de l'imaginaire. Et je pense qu'il y a une science humaine qui peut se faire à partir de l'imaginaire. Et c'est un peu cette science humaine-là que j'essaie de produire, c'est comment est-ce qu'on peut produire une science humaine à partir de l'imaginaire que nous inspire une altérité telle une bactérie bioluminescente.
Et voilà. Et comme vous l'écrivez, la lumière comme le monde est toujours à venir, ou le monde comme la lumière est toujours à venir. Dans le book club, on joue à un jeu, ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche toujours la lumière, mais surtout la musique. Et on propose à nos auditeurs, auditrices de jouer avec nous, ou bien via le compte Instagram de l'émission, ou bien via le mail lebookclub@radiofrance.com. J'en profite pour vous remercier, pardon, de tous les mots que vous nous avez envoyés en 2025 et vous inviter à continuer de le faire en 2026. Aujourd'hui, c'est Quentin qui joue avec nous. Il nous a envoyé un mail. C'est un extrait du roman Les Renards Pâles de Yannick Enel, paru en 2013 aux éditions Gallimard. Lorsque j'ai montré les inscriptions à Anna, elle a souri. Ce sourire me donnait confiance. L'impasse Satan lui avait plu, elle savait quelque chose. Ce nom agissait sur elle comme un sésame. Elle en reparla toute la journée et ne cessa de prononcer les deux mots avec la ferveur d'une adepte. Que la société n'existe pas, que la France soit le crime, lui semblait des évidences. La ruine lui était familière, autant que sa contestation. On retransmettait à la radio ce soir-là le Pierrot Lumière de Schoenberg. Le Pierrot Lunaire de Schoenberg. Et j'avais invité Anna à venir l'écouter avec moi. Je ne lui avais pas dit que je vivais dans une voiture. Lorsque, dans la rue de la Chine, je lui ai ouvert la portière, elle a eu l'air amusée. J'ai allumé la radio. La petite lumière bleue de la boîte à gants veillait sur nous. Fébrile, le face Merci beaucoup, Jérémy Brugidou.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous pour parler de votre livre « Bestiaire de lumière, plongée dans les aventures lumineuses du vivant » aux éditions de l'Ogre, dans la collection Luciole. Je profite que l'éditeur soit là. Est-ce qu'il a une idée du numéro 2? Non. Si, c'est quoi? Conspirer avec les morts, de Marie Calécuy. On mettra ça sur le site internet du Book Club. Au son, c'était Noé Chabanan, à la réalisation, Anna Holweg. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Noé Margas, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Léa Weissgruss, Cyril Marchand, Mathilde Wagman et Alexandre Alaï-Begovic. Tous et toutes sources de lumière pour moi au quotidien. Vous pouvez continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club.